France Inter présente la collection
Anatomie 2
par Thomas Negaroff. Des ouvrages pédagogiques enrichis de cartes et d'infographies pour tout comprendre sur
le conflit israélo-palestinien
avec Vincent Lemire,
la démocratie américaine
avec Romain Huret
ou notre 5ème République
avec Anne-Charlène Bézina.
Anatomie 2
par Thomas Negaroff, une collection France Inter.
Très bonne journée France Inter, il est 9h. C'est le journal de François Chagnot. Bonjour François.
Bonjour à tous. Bras de fer aux airs de guerre froide entre Moscou et Washington. Donald Trump déploie des sous-marins nucléaires après des propos jugés provocateurs de l'ex-président russe. Leurs uniformes bleus vous accompagnent sur la route noire des vacances. Les gendarmes renforcent leur contrôle en ce week-end de chassés croisés très chargés. Le parquet de Nanterre réclame un procès pour viol contre le défenseur du PSG, Achraf Hakimi. 8e étape déterminante du Tour de France entre Chambéry et le mythique col de la Madeleine que la Française Pauline Ferrand-Prévot compte bien croquer. Et puis si rien n'est trop beau pour votre fidèle chien ou chat, des peintres vous proposent de les immortaliser sur toile. C'est l'idée culture du week-end. L'ajout verbal entre Washington et Moscou prend donc un nouveau tournant. Donald Trump annonce le déploiement de 2 sous-marins nucléaires américains dans une zone inconnue, mais plus proche de la Russie qu'auparavant. Une réponse musclée à des propos jugés incendiaires de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. C'est un changement radical dans les relations entre la Maison-Blanche et le Kremlin, Bastien Bory.
Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis n'avaient dévoilé le déploiement de leur flotte nucléaire qu'à 2 reprises. Dans le Pacifique en 2007 contre Pékin et dans le détroit d'Ormuz en 2020 contre Téhéran. Cette fois, si aucun détail n'a été fourni sur la classe des sous-marins envoyés ni sur le type d'armement emporté, c'est bien contre Moscou que la Maison-Blanche entend affirmer ses capacités de riposte. Méditerranée orientale, mer Baltique, océan Arctique, impossible encore de localiser ces manœuvres américaines qui montrent cela dit que le seuil nucléaire redevient un outil de communication politique. 2 jours plus tôt, Dmitri Medvedev, ancien président de Russie et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité du pays, avait jugé que chaque nouvel ultimatum fixé par Donald Trump représentait un pas de plus vers un conflit avec les États-Unis. Pas de réaction de la part de Kiev, qui observe les sous-marins américains plonger et l'avancée russe se poursuivre. 500 km² de territoire pris aux Ukrainiens le mois dernier, c'est presque 3 fois plus qu'en juillet 2024. À Kiev, Bastien Bory, France Inter.
Les négociations entre Russes et Américains restent malgré tout d'actualité. L'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer Vladimir Poutine dans les prochaines heures. Sur le terrain en Ukraine, vous l'entendiez, l'armée russe continue de gagner du terrain au sol et dans les airs. Elle a utilisé 6300 drones pour le seul mois de juillet. C'est un record des drones largement utilisés par les Ukrainiens. Également, les autorités russes font état de 3 morts dans des frappes sur son territoire cette nuit. La guerre commerciale, cette fois menée par Donald Trump, fait dévisser les places financières mondiales, plusieurs bourses européennes et des indices américains en baisse après la signature des décrets d'application des nouveaux droits de douane sur plus de 70 pays hier. Le CAC 40 a chuté de près de 2,9%. La France a largué hier 40 tonnes d'aide humanitaire sur la bande de Gaza avec l'appui de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis et de l'Allemagne. Des largages considérés comme insuffisants par les ONG Médecins du Monde et Amnesty International, mais aussi par Emmanuel Macron. Sur X, le président français appelle Israël à ouvrir un plein accès humanitaire pour répondre au risque de famine, notamment via des acheminements par voie terrestre.
Et en ce samedi 2 août, 2 mots d'ordre, François Chagnot, patience et prudence.
Oui, ce sont vos 2 meilleurs alliés pour cette journée classée noire sur la route du départ en vacances. Déjà plus de 220 km de bouchons selon Bison Futé, c'est plus qu'exceptionnel. Alors tout cela rend la route plus dangereuse. Alors pour éviter les accidents et contrôler les conducteurs, les gendarmes mènent des opérations tout ce week-end, comme hier au péage de Gerza sur l'A71 près de Clermont-Ferrand. Morgane Guillaumard.
Les gendarmes sont positionnés juste après les barrières de péage. Le maréchal des logis chef Morgane Rouchès fait signe à un automobiliste de s'arrêter.
Donc je vais vous demander les papiers du véhicule, s'il vous plaît, et votre permis de conduire.
Dans la voiture, c'est une famille qui revient de vacances. Le GPS affiche 4 heures de route jusqu'à Paris. Les deux petites filles à l'arrière portent mal leur ceinture de sécurité et le papa, au volant, a des écouteurs.
Pour les deux enfants derrière, je vais pas vous verbaliser pour ça, d'accord? Mais par contre, je vais vous verbaliser pour les oreillettes.
L'homme repart énervé.
Voilà, bah écoutez, c'est comme ça, hein, faut assumer.
L'amende est parfois nécessaire, rappelle le gendarme Morgan Rouchès.
Par exemple, monsieur, il avait 3 infractions à 135 euros. Ça fait cher au porte-monnaie pour une famille. En l'occurrence, en le verbalisant pour une seule infraction, en lui expliquant qu'il a 3 infractions, là, pour le reste du trajet, il va faire attention. Donc on a sécurisé sans doute cette famille.
Je vous laisse souffler jusqu'au clap.
Yasser, un Clermontois, ne peut pas repartir avec sa voiture. Le jeune a pris le volant alors que son permis était suspendu.
Là, j'étais pas en règle. Et comme il a dit le monsieur, heureusement, ils m'ont contrôlé. Sinon, si comme par exemple, il m'arrivait un accident, bah, je serais dans la merde.
Le but de ce genre d'opération, c'est justement d'éviter les accidents. Le préfet du Puy-de-Dôme, Joël Mathurin, espère ne pas voir ce week-end de chassé-croisé se transformer en week-end de meurtrier.
Morgane Guillaumard, ici Auvergne, et sur les rails, beaucoup de monde également ce week-end. La SNCF attend 1 100 000 voyageurs pour se chasser croisé. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, sous la menace d'un procès pour viol. Le procureur de Nanterre le réclame. C'est le juge d'instruction qui décidera de l'avenir de cette réquisition. Mais c'est dans tous les cas une étape importante après 2 ans d'enquête, Pierre de Cossette.
L'affaire débute pendant l'hiver 2023, lorsqu'une jeune femme dit à la police avoir passé la soirée chez Achraf Hakimi, dans les Hauts-de-Seine, tous deux ont fait connaissance sur les réseaux sociaux, et l'accuse de l'avoir violée. Elle dépose plainte, le joueur du PSG, qui a alors 24 ans, est rapidement entendu par les enquêteurs, il donne sa version, assure avoir embrassé la jeune femme, mais conteste tout viol, il est néanmoins mis en examen. Il y a quelques mois, l'enquête a été bouclée et le temps d'examiner le dossier, c'est donc hier que le parquet de Nanterre a demandé un procès pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, une étape accueillie avec un immense soulagement, nous dit l'avocate de la plaignante, quand l'avocate d'Achraf Hakimi, elle, juge ses réquisitions incompréhensibles, évoque des mensonges de la plaignante et se dit sereine. C'est désormais au juge d'instruction de décider ou pas d'un procès pour le défenseur du PSG, l'un des grands artisans de la victoire en Ligue des Champions cette année.
Pierre de Cossette. 2000 foyers de fièvre catarrhale ont été recensés en un mois. La maladie de la langue bleue se répand de plus en plus dans les élevages ovins. Face à cette recrudescence, le ministère de l'Agriculture et la Fédération nationale ovins ont appelé hier les éleveurs à vacciner d'urgence leurs bêtes. Cette maladie entraîne notamment des troubles respiratoires mais affecte aussi la fertilité et la production laitière. Les routes du Tour de France n'oublieront pas son nom. La Bretonne Maëva Squiban est la première cycliste française à gagner 2 étapes de suite. Exploit réalisé hier entre Bourg-en-Bresse et Chambéry. Chambéry, c'est le point de départ de l'étape du jour, la 8e étape avec une arrivée à presque 2000 mètres au col de la Madeleine. Et c'est là qu'on attend une autre Française, Pauline Ferrand-Prévot, 2e du classement général.
Ouais, je suis plutôt bien placée. C'est vrai que je me sens encore bien, donc c'est ça qui est plutôt positif, c'est que je suis pas cramée. Je m'étais promis de rester calme, donc je me suis dit, voilà, ma course, elle est aujourd'hui. Tout va clairement se jouer, je pense, sur cette ascension. Je pense que c'est important de rester calme et de faire du mieux que je peux. C'est vrai que ça va être 1h20, 1h30 de montée. C'est un effort que j'ai l'habitude de faire en VTT, donc je pense que ça va être vraiment voilà, une course... un contre un et je vais essayer de me concentrer sur moi et mon effort.
Pauline Ferrand-Prévot au micro de Fanny Le Chevestrier. Le départ de l'étape du jour, la 8e donc, c'est entre Chambéry et le col de la Madeleine. C'est à 13h45, arrivée prévue à 17h30 au sommet. Lui a déjà touché le sommet cette semaine après son titre mondial sur 50 mètres papillon. Cette semaine, le nageur Maxime Grousset va tenter de reproduire l'exploit sur 100 mètres cet après-midi. Top départ à 13h40 dans le grand bassin des Mondiaux de Singapour. Trouver une forme d'immortalité pour son fidèle compagnon, c'est le rêve de nombreux propriétaires de chiens ou de chats. Alors, du simple cadre photo à la taxidermie, oui, les offres sont plus ou moins extrêmes. Le peintre Elia David, lui, met son art au service de la mémoire de votre animal de compagnie. Et en ce moment, le Palais de Tokyo consacre un de ses espaces à ce portraitiste canin. Julien Baldacchino nous fait la visite.
Quand Elia David a commencé son activité de portraitiste canin, c'était pour trouver un métier qui lui permette de gagner sa vie. Mais il a découvert que peindre les proches compagnons des gens implique de prendre un vrai soin à transcrire dans un tableau la relation entre un chien et son maître.
On pourrait croire que c'est comme ça, un peu simple, on s'arrête à des aspects techniques, pragmatiques, mais en fait il y a une dimension très intime de la part du propriétaire, de la propriétaire, pour retrouver quelque chose de... vraiment de très proche, de très famille. Et donc ça, c'est là où s'engagent des échanges. On essaie un peu de préciser les choses. La recherche des photographies sur lesquelles on va s'appuyer pour réaliser le portrait sont assez déterminantes.
Au palais de Tokyo, ce que montre Ilia David, c'est la dimension publicitaire de son projet avec une immense fresque promotionnelle. Simon Brunel-Milon est responsable de la programmation culturelle du Centre d'art.
Ce qui nous intéressait, c'était de parler de la difficulté des artistes à vivre de leur travail. Ce qu'Ilia David nous a proposé de réaliser, c'est une sorte de vitrine promotionnelle de cette pratique de portraitiste canin, comme une grande carte de visite de son travail.
L'installation est présentée en écho au travail de l'artiste Viviane Sutter qui a nommé son exposition Disco, un titre qui fait référence au nom de son propre chien.
Voilà, exposition à retrouver au Palais de Tokyo à Paris jusqu'au 7 septembre.
C'était le journal de François Chagnot, merci à vous. Et pour terminer ce 6-9, un dernier coup d'œil sur la météo de ce samedi.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Magali Rochereau, encore un temps instable dans la partie est du pays.
Et oui, ce matin, c'est sur les Pyrénées et le relief du Massif central que tombent les ondées. Et ça ira jusqu'à l'instabilité au risque d'orage sur les frontières de l'Est cet après-midi. Dans le ciel de traîne des Hauts-de-France au nord des Alpes et sur l'Auvergne, vous êtes sous les nuages et les averses. Tandis que du côté de la façade atlantique, le ciel s'illumine de plus en plus au fil des heures, tout en restant nuageux avec des éclaircies dans l'intérieur des terres. Autour de la Méditerranée, ça sera du soleil, du vent, du sable et même des étoiles ce soir. Attention toujours au risque de feux de forêt engendrés par le Mistral et la Tramontane.
Et les températures restent un peu fraîches.
Oui, ce matin, on retrouve des minimales sous les normales dans le quart nord-ouest. Météo France relève 12 à Lorient comme au Mans et à Beauvais, 16 degrés au-dessus de Paris-Plage dans la capitale. Cet après-midi, la moitié sud conserve ses valeurs de saison de 24 à 30 degrés et de 30 à 32 dans la région sud-est. Vous aurez 29 degrés dans les calanques de Marseille comme à Uzès, jusqu'à 31 à Perpignan et 34 à Alès. Tandis que les maximales seront 2 à 3 degrés en dessous dans la moitié nord, de 20 à 26 degrés sur les bouchons du Chassé-Croisé des vacances. Il fera 21 degrés à Metz, 22 à Caen et 25 à Nantes.
Merci beaucoup Magali Rochereau.
Cet été, jouez avec France Inter.
Bonjour, je m'appelle David, David Castello-Lopez. Savez-vous quel est l'objet le plus cher que vous puissiez acheter en tant que particulier sur la Terre? Est-ce un diamant, un tableau ou un bateau? Eh bien, si vous le savez, vous êtes prêts pour Mousse-Mousse, un jeu dans lequel des candidats issus du monde des gens connus s'affrontent dans un combat à mort pour le triomphe de la culture générale. Un jeu avec de la connaissance, mais aussi du fun.
Mousse-Mousse,
c'est tous les samedis de l'été à 11h sur France Inter.
Chez Orange, on sait que pour vous...
Promo, ça rime pas avec nouveau? Bah si, ça rime.
Mais 5 jours 5G...
Ça rime avec nouveauté. Ah oui, ça rime aussi.
Du 31 juillet au 6 août, il y a 350 euros d'économie minimum sur les Samsung Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7 dès leur sortie. C'est ça, les 5 jours 5G.
Eh oui.
Orange est là.
150 euros de remise et 200 euros de bonus pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 1 euro. Couverture 5G détaillée sur réseau.orange.fr, conditions sur orange.fr.
Il est 9h12, je vous souhaite une belle journée sur France Inter. Tout de suite, le code a changé avec vous, Xavier Delaporte.
Un matin, comme presque tous les matins, j'étais sur la ligne 14 du métro parisien qui a la particularité d'être automatique. Tout se passait comme d'habitude. Les gens étaient pour la plupart sur leur téléphone, à écouter de la musique, à regarder une série, à jouer, à lire le journal, à scroller dans Instagram ou je ne sais quoi encore. Un peu avant la station Châtelet, le métro a commencé à avancer par soubresauts. Il s'arrêtait, il redémarrait. Bon, c'était bizarre, mais personne n'a vraiment levé le nez. Et puis, une fois arrivé à Châtelet, la rame s'est immobilisée, mais les portes ne sont pas ouvertes. Ça a duré une minute ou deux. Et puis, brutalement, le métro a redémarré sans que les portes ne se soient ouvertes. Alors là, dans la stupéfaction des passagers qui seraient descendus à Châtelet, le métro a filé vers la gare de Lyon à une vitesse qui nous a semblé, je ne sais pas pourquoi, assez inhabituelle. Alors là, les gens, ils ont tous levé les yeux de leur téléphone. On s'est regardé. Sans échanger un mot, mais je pense qu'on se disait tous la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Merde. En plus, on peut prévenir personne parce que qui sait ce qui se passe puisqu'il n'y a pas de conducteur?
Xavier Delaporte.
Est-ce que c'est un bug? Le métro s'est fait hacker. On va nous projeter à la pleine vitesse contre la rame précédente, mais comme dans un film de série B, c'est vraiment con de mourir comme ça.
Le code a changé.
Ce qui est marrant dans cette histoire, et qui justifie que je la raconte parce que sinon, en elle-même, elle casse pas trois pattes à un canard. Donc ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que dans cette rame de métro, j'étais justement en train de lire un livre qui s'intitule « Éloge du bug ». Déjà, c'est une étrange coïncidence. D'autant que l'auteur de ce livre, Marcello Vitali Rossati, un philosophe italien qui enseigne à Montréal, il vante les mérites de ce type de moments. Ces moments où nos machines se mettent à dysfonctionner. Lui, il y voit l'occasion de renouveler notre rapport à la technologie. Alors, quand quelques semaines plus tard, on s'est retrouvés tous les deux avec Marcello dans le studio pour discuter de son éloge du bug, que, en plus, on s'est rendu compte qu'il y a presque 10 ans, on avait déjà discuté à la radio de logiciels libres dont il est un grand connaisseur et auquel il avait consacré un livre. Tenant compte de tout ça, je n'ai pas hésité, comme on le fait avec un vieux copain, à lui raconter mon histoire de métro pas ouf et à lui demander ce qu'il en pensait.
Le code a changé.
Le fait que le métro avance et s'arrête au bon endroit, que les portes s'ouvrent, etc., tout ça, c'est le résultat d'un mécanisme très complexe et très délicat. Et en fait, nous sommes tellement habitués que nous ne le voyons plus. C'est comme si c'était normal. C'est comme s'il n'y avait pas d'enjeu, du coup. Cette espèce d'explosion du dysfonctionnement nous laisse bouche bée et du coup, nous sommes obligés de faire autre chose. Et c'est ça qui est intéressant du dysfonctionnement, c'est qu'il oblige à une réaction autre. On commence à voir quelque chose qui était invisible. L'exemple typique de Heidegger sur ça, c'est les marteaux. Donc pendant que je suis en train de marteler, je ne vois pas les marteaux. Quand est-ce que je vois les marteaux? Quand est-ce que les marteaux m'apparaissent comme devant moi, puis je peux m'interroger sur ce que c'est? S'il se casse, s'il ne fonctionne plus.
Alors là, Marcello, il fait référence à un célèbre texte de Martin Heidegger qui apparaît, je crois, dans « Être et temps ». Bon, c'est un de ses livres les plus importants. Et là, le philosophe allemand, parmi 1000 autres trucs, explique en effet que quand un outil fonctionne bien, il se fond dans l'activité et il devient presque invisible à notre conscience. Ce qui nous permet de nous concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que sur l'outil lui-même. Et du coup, quand il dysfonctionne, cet outil, c'est là qu'il nous apparaît. Ça me donne un peu envie de me mettre à Heidegger, que je connais vraiment très mal, mais je sais pas pourquoi, outre ses acquaintances nazies, il m'a toujours un peu déprimé, Heidegger. Marcello, il me donne envie d'aller y plonger. Parce que c'est très intéressant cette question de la transparence de l'objet technique, de l'objet qui n'apparaît que quand il dysfonctionne. Mais ça pose une question. Quel intérêt y a-t-il à voir ce qui est invisible? Parce que moi, je trouve ça plutôt assez pratique que le métro ou mon ordi fonctionne correctement sans que j'aie à y réfléchir.
Les dysfonctionnements, pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, il nous fait comprendre que ce qui a été naturalisé n'est pas naturel. Alors, quel est le problème de la naturalisation? C'est que si quelque chose est naturel, évidemment, il ne peut qu'être comme ça. La nature est invoquée justement pour appuyer quelque chose qui ne peut pas être autrement, donc qui ne peut pas être questionné. Et les dysfonctionnements nous font voir qu'il n'y a pas de nature derrière, mais donc que ça pourrait être autrement.
Bon, certes, la différence entre un marteau et mon bras, par exemple, c'est que mon bras m'a été donné naturellement et il peut difficilement être autre qu'il n'est. Alors qu'un marteau, il pourrait être autrement. Et d'ailleurs, même si je suis nul en bricolage, je sais qu'il existe différents types, différentes sortes de marteaux. Mais j'ai du mal, quand même, à considérer que la naturalisation du marteau soit un problème majeur de l'humanité. Donc, je demande à Marcello quel type d'appareil technique, comme il dit, lui fait redouter la naturalisation.
Par exemple, certaines applications. Le fait que tout le monde utilise Google Maps, par exemple, là, à mon avis, on commence à voir qu'il y a un problème. On utilise Google Maps et on commence à croire que c'est simplement une façon naturelle, neutre, de naviguer dans l'espace ou de se repérer dans l'espace. Ce n'est pas un jugement contre Google Maps ou contre la technologie. Le problème, à mon avis, est qu'on ne se rend pas compte du fait que Google Maps est une manière de faire fonctionner quelque chose. Il implémente et il incarne une vision du monde. Exactement comme le métro, c'est la même chose. Pourquoi le métro s'ouvre, s'ouvre pas, il va à cette vitesse, etc. Ça ne va pas de soi, ce n'est pas la seule manière pour le faire. Il y en aurait plein d'autres. On en choisit une. Évidemment, on doit en choisir une. Mais est-ce qu'on est capable de savoir pourquoi on a choisi celle-là? Google Search, les moteurs de recherche, les résultats les plus pertinents. Selon quels critères? Le problème n'est pas de savoir si le moteur de recherche est plus ou moins performant. il est de savoir c'est quoi la pertinence selon ce moteur de recherche. Alors, ce qui me fait peur, c'est qu'on croit qu'une application, une société a la seule solution à tous les problèmes et qu'on ne voit même plus que nous sommes en train d'effectuer un choix et que ce choix pourrait être différent.
Ok, donc on n'interroge plus les spécificités de l'outil auquel on a recours, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai d'ailleurs pour plein de trucs dans nos vies numériques. Hein. Par exemple, moi je suis fasciné par la vitesse à laquelle on s'est fait au infinite scroll, le scroll infini. La vitesse à laquelle on s'est habitué à faire défiler à l'infini des contenus. Parce que si on y réfléchit bien, c'est une expérience super incongrue pour nous, l'infini. En matière de consommation, hein, tout a une fin. Puis, quand on bouffe, quand on lit un livre, un film, même une série, ça a une fin. Mais pas mon fil TikTok. Ça devrait nous interroger. Ben non, ça nous interroge pas. Ça nous semble maintenant naturel. Prenons un outil technique plus ancien, le livre. Je parle du livre parce que Marcello, c'est un spécialiste de l'édition numérique, donc il connaît très bien le livre et son histoire. On sait bien que les livres n'ont pas toujours ressemblé à ce à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Il y a eu le rouleau, il y a eu le volumen, le codex. En fait, c'est qu'après une longue évolution que le livre est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça nous paraît parfaitement naturel qu'un livre soit comme ça. Alors que, en fait, il aurait pu être autre chose, et il l'a été d'ailleurs. D'où ma question. Pourquoi Marcello est-il plus inquiet de la naturalisation de nos outils numériques que de la naturalisation d'un outil technique comme le livre ?
C'est vrai, tu as raison. Il y a cependant des différences importantes à mon avis. La première, c'est celle de la complexité. Le livre, il est un peu plus facile, il ne faut pas non plus penser que le livre est simple, hein, parce que loin de là, mais il est un peu plus facile d'en comprendre les spécificités techniques et donc les implications. Quand il s'agit d'une technologie numérique, le plus la technologie numérique est complexe, le moins je suis capable d'identifier quels sont les enjeux. La deuxième raison, c'est la concentration des acteurs qui gèrent ces technologies. De acteurs capables de fabriquer des livres, il y en avait et il y en a beaucoup. Hein, souvent, on me dit « Ah oui, mais tu dis que Word, c'est un problème parce que c'est une technologie propriétaire pour écrire, mais en fait, même un stylo Bic, il est propriétaire. » Oui, mais stylo Bic, on peut acheter beaucoup de marques et la compétition est large et donc aussi la différence potentielle. Ici, le problème, c'est qu'on a fondamentalement une poignée d'acteurs forts qui sont au même endroit, qui partagent les mêmes valeurs et qui possèdent la quasi-totalité de ces technologies. Et cette concentration me fait un peu peur et me semble un peu plus alarmante.
Là, je suis d'accord avec tout ce que dit Marcello au sujet de la complexité, de la centralisation des acteurs, comme différence de degré de naturalisation entre le livre et les technologies numériques. Ok, mais quelque chose me fait tiquer. Son évocation rapide de Word. Je vois pas très bien ce que ce célèbre traitement de texte de Microsoft vient faire dans cette histoire de naturalisation.
Première chose, écrire avec un ordinateur n'est pas quelque chose de naturel. L'ordinateur est fait pour calculer. Personne n'aurait l'idée de se mettre à écrire avec une calculette. Premier effet de la naturalisation, ça nous semble évident désormais d'écrire avec un ordinateur, alors que non, pas du tout. Olivetti, par exemple, est sorti du marché parce qu'ils ont dit « Ben non, mais les gens vont écrire avec une machine à écrire. On va améliorer les machines à écrire. » Par exemple, des machines à écrire avec une mémoire et un écran. C'était quand même une bonne idée. Pourquoi besoin d'avoir des trucs qui calculent alors que moi, je veux faire du texte ? Et puis, pour le faire court, c'est qu'une série d'acteurs dont Microsoft identifie, c'est le besoin pour les entreprises de gérer la bureautique. Il faut écrire des rapports internes, il faut écrire des ordres du jour des réunions, etc. Et tous ces documents sont les documents qu'on écrit avec la machine à écrire. Si on veut trouver un marché pour vendre des ordinateurs puis des applications, ben c'est à ces gens-là qu'il faut essayer de vendre. Donc, on leur donne la possibilité de avoir une machine à écrire dans un ordinateur et de faire la même chose qu'ils faisaient. Donc, en fait, de quoi on a besoin ? C'est là la représentation, par exemple, les formats A4, hein, ou Letter, justement, en Amérique du Nord. Par exemple, tout le développement du VisiVig, What You See is What You Get, avec cette idée, c'est quoi que tu vois ? Ben, en fait, c'est ce que l'imprimante fait. Et en fait, on naturalise ensuite ces modèles comme s'ils étaient les seuls possibles pour écrire. Mais quand j'écris un roman, ou quand j'écris une lettre d'amour, ou quand j'écris une édition critique, bah, c'est qu'imprime mon imprimante n'a pas beaucoup de sens. Le format A4 est un des pires pour lire du texte long. C'est habitué à mal lire. On a jeté à la poubelle des compétences éditoriales et typographiques qui se sont développées pendant 5 siècles d'histoire de l'édition. Donc là, on a un modèle qui s'impose comme les seuls possibles et qui détruit les autres. Et en fait, il n'y a aucune raison. Pourquoi ?
Bah justement, pourquoi ? Marcello dit qu'il n'y a aucune raison, mais c'est pas vrai. Il y a forcément des raisons qui expliquent qu'un modèle comme Word se soit imposé. D'ailleurs, j'ai pas besoin de le pousser longtemps pour qu'il en trouve au moins une.
Les 80% des technologies qui nous sont propinées fondamentalement par ces grands acteurs du numérique obéissent à un seul paradigme, une vision du monde. Et en effet, cette vision, c'est laquelle bah, ce que j'appelle l'impératif fonctionnel. Il faut que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut que ça marche ? Il faut être efficace, il faut être productif, il faut produire de la richesse. Ce qui me semble poser problème, ce n'est pas que quelqu'un puisse vouloir s'enrichir ou quelqu'un puisse être capitaliste. Ça serait un autre débat. Ce qui m'inquiète, c'est que on pense que la seule chose qu'on peut vouloir, c'est être capitaliste. Alors, j'aimerais des technologies qui puissent faire autre chose.
Ah, ça. Eh bien, la suite de notre discussion avec le chercheur Marcello Vitali Rosati, c'est dans un instant sur France Inter. Just wanna squeeze you till you pop. Avec le chercheur Marcello Vitali Rosati, nous examinons la place que prennent les technologies dans nos vies, surtout quand elles se mettent à bugger. Et pourquoi adoptons-nous un logiciel comme Word, par exemple, plutôt qu'un autre ? Eh bien, justement parce qu'ils fonctionnent, parce qu'ils sont efficaces. Mais est-ce que c'est si simple que ça ? La réponse dans Le Code a changé sur France Inter.
La porte, le code a changé.
L'efficacité comme critère unique. Et une efficacité qui, au départ, ne se mesure qu'à une seule aune dans le cas de Word, l'écriture et la transmission de documents à l'intérieur de l'entreprise. Ok, mais Word, même s'il a beaucoup changé, c'est un vieux truc. Et il me semble qu'on utilise plein d'outils et de services qui sont nés pour autre chose que pour garantir l'efficacité dans l'entreprise. Enfin, des services ultra populaires comme Instagram ou TikTok, pour prendre que, hein, ne sont pas nés dans l'idée d'améliorer la bureautique, hein. Alors là, je pense piéger Marcello, mais il me donne un exemple imparable.
Typiquement, pendant la Covid, une des caractéristiques, à mon avis, de l'adoption massive d'une série de, entre guillemets, solutions informatiques, était de ne pas se poser la question. À l'université, par exemple, il semblait évident que on devait prendre la technologie la plus simple, la plus intuitive et la plus performante. Si on demandait, mais performante pour faire quoi ? Ben, en fait, la question ne s'est posée même pas. C'est pas la peine de perdre du temps, s'asseoir autour d'une table et dire « C'est quoi un cours pour toi ? Est-ce que une vidéoconférence Zoom est différente d'une autre vidéoconférence, par exemple Big Blue Button ou Jitsi ou Teams ou whatever. Jitsi, par exemple, a la possibilité de sélectionner la fenêtre qu'on veut regarder, ce qui est très utile, moi, je trouve, dans certaines conditions de rencontre, parce que il y a plusieurs personnes, je veux regarder ce que fait une personne en particulier, donc je clique sur la fenêtre où il y a plusieurs personnes qui présentent, je peux choisir, donc c'est beaucoup plus démocratique comme type d'organisation que Zoom, qui a été pensé fondamentalement pour des petites réunions d'entreprise, vraiment le business meeting. Et du coup, il porte des valeurs. Le problème n'est pas de dire c'est pas bien, c'est est-ce que ces valeurs-là sont mes valeurs dans ces cas particuliers ?
D'accord, mais là, j'ai deux objections. La première, il me semble qu'une des particularités des outils et services informatiques, c'est leur adaptabilité. Adaptabilité à l'évolution technique, hein, capacité de calcul, stockage, etc. Mais aussi adaptabilité aux usages. C'est pour ça qu'il y a tout le temps de nouvelles versions, avec des évolutions constantes. Coller au plus près des usages, c'est même une obsession pour ces boîtes.
C'est vrai, cependant, deux considérations. La première, la raison pour laquelle elles s'adaptent, hein, c'est toujours la même, pour gagner plus d'argent. Ce qui, encore une fois, n'est pas mauvais en soi, mais qui oriente fortement. Pourquoi j'ai choisi de m'adapter de cette manière plutôt que de cette autre manière ? Ben, y a un impératif derrière. La deuxième considération, c'est que pour cette raison, il est nécessaire qu'ils aillent chercher une quantité et une uniformité d'usage. Jamais une grande entreprise de ce type fera des choix qui s'adressent à des marchés de super niche. Je ne dis pas qu'il ne faille pas parfois, on a des usages mainstream et puis il y a un marché mainstream et il est là et puis on peut s'interroger sur les raisons politiques. Mais ce qui est problématique à mon avis, c'est qu'il n'y ait que ça.
Marcello a parfaitement répondu à ma première objection. C'est vrai, même si ces outils s'adaptent, il faut s'interroger sur ce qui guide les choix de l'adaptation. Donc, si les services numériques évoluent, ce n'est pas toujours pour des raisons désirables. Mais du coup, j'ai une seconde objection, et qui porte d'ailleurs sur les services mainstream dont a parlé Marcello. Est-ce que les usagers ne jouent pas de cette efficacité, ou même la déjouent ? Et là, je pense à un truc que j'ai peut-être déjà raconté. Moi, je m'amuse assez souvent avec les algos des Reels d'Instagram ou des vidéos TikTok. Je m'en amuse pour les configurer le plus vite possible autour d'un sujet. J'ouvre l'appli et je me dis, bah tiens, là, dans 10 minutes, je veux voir que des vidéos de foot, que des vidéos de gens bourrés ou alors que des vidéos de fachos. Et je sais ce qu'il faut faire, hein. Il faut rester le plus longtemps possible sur les vidéos qui sont dans les thématiques voulues. Il faut aller consulter les comptes qui les postent. Il faut éventuellement les liker. L'algo, il est tellement efficace que les propositions se resserrent très vite autour d'un sujet. Alors, mon but, il est parfois juste de me distraire, parfois de m'instruire. Mais il est aussi de perturber l'algo. Qu'il ne sache plus quelle pub me balancer, que la prochaine fois que j'ouvre l'appli, ben, il sache plus ce que je cherche, parce que ça change tout le temps en fait ce que je cherche. Alors moi, je pensais être super malin en faisant ça. Et un jour, j'en parle à un copain qui bosse chez TikTok. Il est assez haut placé, donc en gros, il connaît très bien les usages de la plateforme. Et il me dit, mais t'es super naïf de penser que t'es le seul à faire ça. En fait, jouer avec l'algo, plein de gens font ça tout le temps. Et c'est d'ailleurs un problème pour nous. D'où ma deuxième objection à Marcello. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un peu plus confiance dans les usagers ? Est-ce qu'il ne faudrait pas partir du fait qu'ils déjouent l'efficacité, qu'ils la tordent, qu'ils la détournent ?
Je nuancerai un peu ton enthousiasme pour plusieurs raisons. Ce que tu proposes, on utilise un algorithme pour lui faire faire autre chose, pour lui faire faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Par exemple, je veux voir des vidéos facho, je sais comment faire croire à l'algorithme ça. Pour pouvoir les faire, il faut un niveau de littératie plutôt poussé. Ce qui me ferait dire aujourd'hui que ce n'est plus la solution, c'est que le niveau de complexité est un peu trop élevé pour que ces tactiques fonctionnent, la première. Et la deuxième, c'est que la force de réappropriation du côté des GAFAM de nos techniques est plus forte que notre capacité. C'est-à-dire que tout détournement devient un détournement systématique, hein, qui est repris par la boîte, qui ensuite, peut-être, TikTok te proposera, du coup, t'as deux profils, facho ou pas facho, et du coup, t'auras un bouton et on aura rendu commercialisable aussi la technique.
Vu comme ça, c'est pas faux, et même c'est assez déprimant. D'ailleurs, ce que je racontais tout à l'heure à propos de mon usage très malin de Instagram ou de TikTok, en fait, ça marche pas. Parce que, au milieu de celles que je cherche, l'algo, il vient toujours me proposer des vidéos qui n'ont rien à voir avec le sujet, comme si il pressentait que je pouvais me lasser. Et ça marche, parce que combien de fois j'ai été entraîné ailleurs et j'ai fini par passer des heures à regarder des conneries, ce qui est le but ultime de ces plateformes. Alors, comme Marcello a balayé mes objections, des objections qui, en bon réformiste que je suis, visaient à envisager que le bug n'est peut-être pas la seule solution, que Marcello exagère sans doute sa nécessité, eh ben, que j'accepte de revenir au bug. Donc, revenons-y. Pourquoi, alors, Marcello considère-t-il que le bug, c'est plus efficace que tout ça?
D'abord, le bug, il casse. Et je pense que casser, c'est quelque chose de fondamental.
Ah, les Italiens, toujours casser les trucs.
Faut casser quelque chose.
Toujours
péter. Oui, le bug a cet effet un peu radical de bloquer le flux. Et il me semble que cet arrêt est nécessaire si on veut vraiment réfléchir. Le bug est la pensée critique, est la philosophie, à mon avis.
Wow, Marcello. Comme tu y vas, là. Le bug est la pensée critique, le bug est la philosophie, vraiment?
Une bonne philosophie, à mon avis, bloque les fonctionnements, on s'arrête, on commence à réfléchir, on perd du temps, donc on perd de la richesse, on ne trouve pas des solutions, normalement, une bonne philosophie ne trouve pas des solutions, on n'est pas plus heureux, c'est pas vrai. La philosophie, c'est un bug parce qu'elle va complètement au contraire de tous les paradigmes que nous avons naturalisés, elle les questionne de façon complètement radicale. Et ça, c'est ce qui me semble une bonne promesse aujourd'hui pour le futur de la philosophie, un bon défi. Continuer à essayer de survivre de ces petits insectes, de ces petits nuisibles qui arrivent à survivre malgré le fait qu'on fasse tout pour s'en libérer. Évidemment, l'idée n'est pas de faire un éloge des accidents, mais quand accident il y a, il faut s'interroger si le bug est vraiment la cause de l'accident. Souvent, les problèmes sont des problèmes structuraux beaucoup plus complexes. Qui et pourquoi prend des choix de modernisation, entre guillemets, dans un hôpital? L'idée d'avoir naturalisé une espèce d'impératif de adoption rapide de tout, c'est cette idée de, en fait, pour être bien, il faut acheter la dernière technologie. Et en fait, le bug n'est pas le tueur. Le tueur, c'est cette rhétorique. Les tueurs, c'est un certain fonctionnement de l'hôpital, la pression commerciale sur l'entreprise qui produit les softwares, qui doit livrer rapidement, etc. Donc là, ce que révèle le bug, c'est tout un mécanisme très problématique, politiquement, éthiquement, etc., qui fait en sorte qu'ensuite, le bug peut tuer. Mais ce n'est pas le bug qui a tué. Du coup, là aussi, même dans ces cas tragiques, le bug a la capacité de révéler quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et puis, il nous oblige, ou au moins il nous pousse, à augmenter un peu notre littératie et notre maîtrise.
Oui, évidemment, parce qu'on veut comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche comme ça, et pas autrement, comment ça pourrait marcher autrement. On s'intéresse à des détails matériels qu'on pensait triviaux, et c'est pour ça qu'on augmente notre littératie, c'est-à-dire notre compréhension des processus informatiques et de ce qui les sous-tend. Le bug a des vertus, Marcello m'a pleinement convaincu, il faut des bugs. Mais là, il y a un problème. Parce que les bugs, ça arrive. Ok, mais en fait, ça arrive pas si souvent que ça. Enfin, je parle des bugs qui peuvent vraiment nous faire réfléchir à la machine. La plupart du temps, nos outils marchent bien, même très bien, ou quand ils déconnent, ça dure 3 secondes et puis on oublie. Donc, si on veut malgré tout réfléchir à nos outils techniques, si on veut augmenter notre compréhension des enjeux, notre maîtrise, notre littératie, on peut pas attendre le surgissement du bug. Enfin, il faut être un peu plus proactif. Mais alors, comment ? Comment faire pour ne pas être passif dans cette histoire? Quand je pose la question à Marcello, il dézippe sa sacoche qui est sur la table et il sort son ordinateur.
Mon ordinateur que j'ai ici, malheureusement les personnes ne pourront pas le voir sur le podcast.
Mais heureusement, parce qu'il n'est pas sublime, je suis désolé.
Alors, une des dernières fois que j'ai pris l'avion, ils m'ont arrêté au contrôle de sécurité et ils m'ont demandé de le démonter. Parce qu'en effet, ils ne sont plus habitués à voir ces trucs-là, surtout à un aéroport comme Montréal ou Paris. Il n'y avait que des MacBook Air qui passaient, puis les miens. Et ils m'ont dit, mais messieurs, c'est quoi ça? Je dis, bah, c'est un ordinateur. Parce qu'ils avaient peur que ce soit une arme ou un truc. Alors oui, bah, c'est un vieil ordinateur de 2008, je pense, un ThinkPad X200, qui est un des rares ordinateurs qui peut être reconditionné en vidant de tout pièces propriétaires, donc tous les logiciels qui tournent dessus, y compris les BIOS, est libre. Du coup, il donne la possibilité de tout voir. Hein. Évidemment, c'est une vieille machine, elle fonctionne très bien pour faire ce que je dois faire, mais par contre, quand je vais sur certains sites, typiquement bah, les sites de la SNCF, etc., il y a tellement de JavaScript que ma machine rame. Ça révèle des choses, hein, parce que ça révèle, par exemple, un usage énorme de certaines solutions, justement, de certaines applications, typiquement les JavaScript qui tournent côté client, qui est invisible pour quelqu'un qui a le MacBook acheté hier. Et en fait, ça permet aussi de se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour acheter un billet de train, c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus compliqué d'il y a 10 ans. Et en fait, à la fin, je fais la même chose et peut-être moins bien. Ça permet aussi de se questionner sur qu'est-ce qui est en train de se faire. Est-ce que c'est vrai qu'on est dans ces progrès linéaires? Et en fait, de voir que c'est pas comme ça. Et en plus, ça permet une autre chose. Ça permet justement d'aller regarder les différents composants de la technologie, que ce soit des composants matériels. Par exemple, ici, j'ai pu monter la caméra et démonter la caméra tout seul avec des vis.
C'est passionnant ce que raconte Marcello Vitali Rossati, mais je ne comprends pas tellement l'intérêt de bidouiller ces appareils électroniques. La réponse, c'est dans quelques instants sur France Inter.
Il faut nettoyer le dossier système, remettre à jour, régler les problèmes. Le geste qui sauve, c'est toujours le même, appuyer sur pomme et puis M.
Avec le chercheur Marcello Vitali Rosati, on parle de l'intérêt du bug pour notre société. Et Marcello a un peu digressé sur le bidouillage informatique.
Le code a changé.
Bon, quand il parle de son vieil ordi, Marcello, manifestement, il est intarissable. Tout ce qu'il raconte est passionnant. Hein. Mais là, je l'interromps sur son truc des vis. Parce que moi, je ne vois pas le kiff de démonter et remonter sa caméra. C'est quoi l'enjeu là-dedans?
Je trouve ça un peu bizarre qu'il n'y ait pas de débat public sur le fait que nous sommes habitués à acheter des dispositifs sur lesquels nous avons de moins en moins de droits physiques. Ça, c'est vrai pour les téléphones, c'est vrai pour les voitures. Une voiture, désormais, bah, il n'y a personne, même un bon mécanicien n'a aucune idée de ce qui se passe dans l'ordinateur d'une voiture. Il peut juste brancher un iPad et puis regarder ce que son application lui dit. Ça, je trouve que c'est très problématique d'un point de vue théorique aussi. Simplement le fait de dire, bah pourquoi j'ai acheté ces trucs puis je peux pas enlever les vis? Si je veux, Je ne dis pas que tout le monde doit enlever les vis, mais pourquoi je ne peux pas les faire? Pourquoi je ne peux pas savoir ce que fait un logiciel qui tourne par défaut sur mon ordinateur? Cette machine me permet de tout faire, ça.
Alors là, je comprends pourquoi Marcello a intitulé son livre « Éloge du bug ». Eh ben, c'est une référence à un livre qui est paru en 2009, qui est devenu un classique de la littérature sur la technique, « L'éloge du carburateur » de Matthew Crawford. Dans « L'éloge du carburateur », Crawford fait l'histoire de notre déconnexion à la matérialité des objets techniques qui nous entourent. Une déconnexion qui fait qu'on ne sait plus comment marchent la plupart des machines qui nous entourent. Crawford, lui, déplore cette ignorance et la perte de pouvoir qu'elle induit. Et lui, d'ailleurs, dans le livre, il raconte comment il a quitté son poste de prof de fac pour ouvrir un magasin de réparation de moto. Éloge du carburateur, donc. Marcello, lui, bah, il est toujours prof de fac, hein, mais il a décidé qu'il voulait pouvoir trifouiller dans son principal outil de travail, qui est son ordi. Mais il a dit un truc qui m'intrigue au début de sa phrase. Il a dit qu'il n'y avait pas de débat public autour du fait qu'on achetait des outils sur lesquels on avait de moins en moins de droits, et des outils qui tournent avec des logiciels qui sont propriétaires. C'est tout à fait vrai. En dehors de milieux comme celui du logiciel libre, eh ben, il n'y a pas de débat. Alors que c'est quand même un truc de dingue d'utiliser quotidiennement des logiciels qui ne nous appartiennent pas et dont les propriétaires peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. D'ailleurs, un exemple m'avait été raconté par Nicolas Taffin dans un épisode sur la typographie. Nicolas m'avait raconté comment pendant des années, hein, les gens qui utilisaient les logiciels Adobe, qui sont ultra courants dans le monde du design, de l'édition, etc., pouvaient utiliser à l'intérieur une banque de couleurs qui s'appelle Pantone. Jusqu'au jour où...
Cette année, les couleurs ont disparu des documents d'Adobe à cause de la rupture entre Pantone et Adobe. Donc quand on ouvre un vieux document où il y avait des couleurs Pantone, c'est remplacé par du noir, donc c'est caviardé par le logiciel. Donc si on a travaillé sur une collection et qu'on ouvre un truc de l'année dernière, eh bien c'est du noir et on n'a plus Pantone. Bon. Le manque de liberté, parfois, il te saute à la figure, quoi.
C'est dingue. C'est un pouvoir gigantesque des éditeurs de logiciels. Et c'est l'effet direct du fait qu'on ne soit pas propriétaire des logiciels qu'on utilise. Alors, pourquoi ça ne fait pas débat? Pourquoi on n'en parle pas en dehors de quelques milieux?
Parce qu'on a un peu l'impression que ce sont des choses qui ne comptent pas beaucoup. Ce que j'aime appeler le mépris pour la matérialité ou la rhétorique de l'immatériel. C'est comme ça que fonctionne le discours des GAFAM. De nous dire, bah, finalement, ne t'inquiète pas trop des vis de ton iPhone ou du petit logiciel qui tourne derrière. Il est fait pour ton bien. Tu peux tranquillement déléguer cette chose à une entreprise qui s'en occupe, donc nous, et puis t'occuper des choses plus importantes qui sont ta pensée. Alors typiquement, hein, des politiques comme le fait de dire tu n'as plus l'accès à un administrateur à ton ordinateur, ce qui est de plus en plus le cas pour plein de dispositifs, évidemment pour les dispositifs mobiles, hein, mais aussi pour les ordinateurs, parce que comme ça, tu ne peux rien casser. Je te protège de toi, tu pourrais écrire une commande qui efface des choses que tu ne veux pas effacer, donc j'évite que tu les fasses, je ne te donne pas le droit de les faire, et il n'y a pas d'enjeu là-dedans. Mais derrière ces discours, il y a évidemment qu'on perd complètement la prise sur nos actions.
Ok, en théorie, je suis tout à fait d'accord, et je trouve tout à fait intéressant ce que dit Marcello, cette rhétorique qui nous incite à mépriser la matérialité. Mais la matérialité, ça prend un temps de maboule. Enfin, bon an mal an, ça demande pas mal de compétences d'utiliser un ordi entièrement reconditionné quand tout ce qu'il constitue, c'est-à-dire de la caméra au logiciel, est non propriétaire. Et d'ailleurs, même si ça n'est pas du tout l'intention de Marcello, hein, je trouve que ça a un côté même un peu élitiste. Donc, on se trouve face à une alternative. D'un côté, démonter et remonter son ordi, se mettre au logiciel libre, ce qui demande du temps et des compétences. De l'autre côté, espérer le bug, qu'on ne peut pas provoquer, et qui même peut être assez nuisible. Alors, est-ce que Marcello, il n'a pas quelque chose d'autre à proposer, hein ? De moins accidentel, de plus mainstream, quelque chose qu'on puisse vraiment faire, qui soit à la portée de tous ?
Tout d'abord, je garde le bug. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est une rupture radicale du paradigme. Et cette rupture n'est pas nécessairement dans une intentionnalité humaine telle qu'on peut la désigner. Là, il y a quelque chose dans ce que tu dis, hein, de nous prenons en charge nos vies et puis nous faisons quelque chose. Je pense que cette irruption de quelque chose qui est complètement externe et pas maîtrisable, justement, est importante à garder.
Marcello allait développer un deuxième point. Mais là, je me dois de l'interrompre encore une fois. Parce que je trouve assez étonnant cet appel à quelque chose qui vient de l'extérieur de nous, qui dépasse l'humain, qu'on ne maîtrise pas. On est en train de parler de trucs assez rationnels, là, comme la compréhension des mécanismes techniques, des enjeux qui les sous-tendent, la reprise en main sur nos outils. Et lui, il dit « Ouais, mais il faut quelque chose qui surgisse d'ailleurs. » Donc, moi, je lui objecte. « Ok. » Pour réformer notre rapport au numérique, ce que tu veux, c'est une transcendance, qu'on attende le Messie, c'est ça ?
Ou peut-être s'interroger sur le fait que l'intentionnalité et l'essence soient toujours des productions humaines et d'un individu qui pense. Assumer les bugs, c'est aussi assumer le fait que nos idées géniales, probablement, nous ne l'avons pas pensées. Elles viennent, d'ailleurs, elles viennent aussi et fondamentalement et à mon avis, principalement de la matérialité. C'est rendre compte que, par exemple, mon idée d'aller manger dans ces restaurants-là, elle vient pas de moi. Elle vient de plein de facteurs et je ne suis pas le maître. Et donc, finalement, je vais manger au restaurant peut-être aussi à cause d'une série d'interactions technoculturelles dont fait partie la notification que j'ai eue sur mon téléphone, etc. Donc, je pense qu'il faut de plus en plus se questionner sur ce credo dans lequel il y a des êtres humains qui pensent et qui produisent l'essence et puis la matière qui ne produit pas l'essence. À mon avis, c'est plutôt l'inverse et les êtres humains sont plutôt les résultats de la matière que l'inverse, surtout parce que cette rhétorique-là de l'être humain qui pense est une rhétorique qui détermine un élitisme fort à la fin, hein, parce qu'évidemment, pas tous les êtres humains penseront au même niveau et puis il y en aura qui penseront mieux et puis etc.
Là se pose un vieux problème que Marcello développe dans son livre, le fait que la matérialité ait longtemps été considérée comme le domaine réservé des femmes, l'esprit étant évidemment la chasse gardée des hommes. Donc, d'une certaine manière, en rappelant notre dépendance égale à la matière, on casse cette vieille répartition des genres. Là, je comprends quelque chose. Je comprends que derrière l'éloge du bug que fait Marcello, il n'y a pas simplement une idée du rapport à la technique. Ce qui serait déjà beaucoup. Mais il y a aussi une pensée de l'humain. Que l'humain n'est pas seul, que l'esprit humain n'est pas seul, qu'il y a aussi la matière et que quelque chose pense dans ou à travers la matière. En l'écoutant, je me dis que c'est étonnant à quel point nos technologies contemporaines nous amènent à repenser la place de l'humain dans le monde et nous rappellent que nous sommes pris dans une matérialité dont fait partie la technique. Et le bug, c'est comme une alerte qui permet ce rappel. Ce serait une belle conclusion. Mais il faut aborder un dernier problème qui me semble à la fois essentiel et très actuel. C'est l'intelligence artificielle. Parce que si tout ce que raconte Marcello sur le bug me semble parfaitement convenir à nos machines classiques, pour le dire comme ça, il me semble que ça s'applique un peu moins bien à l'IA. Bon, pour le dire vite, je me demande si l'IA, ça va pas tuer le bug. Dit comme ça, ça paraît un peu radical, mais je m'explique. Prenons une catégorie d'intelligence artificielle que sont les grands modèles de langage qui sont à la base des robots conversationnels comme ChatGPT. Évidemment, il peut y avoir plein de bugs dans les serveurs, dans les bases de données, sans doute aussi dans les programmes intermédiaires qui servent à faire marcher les modèles, etc. Ok, mais tout ça, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, nous, c'est ce que nous dit l'IA, ce qu'elle écrit, ce qu'elle donne comme réponse aux questions qu'on lui pose. Or, quand on discute avec le robot conversationnel et qu'il raconte n'importe quoi, est-ce qu'on peut considérer qu'il bug ? C'est pas évident. D'ailleurs, dans le jargon de l'IA, on dit pas que la machine bug à ce moment-là. On dit que la machine hallucine. C'est un terme qui m'intéresse, ça. Il est manifestement apparu il y a pas si longtemps dans les laboratoires de Google, on dit 2018. Et il s'est vite imposé depuis. Alors pourquoi il s'est vite imposé ? À mon avis, c'est parce que quand elle écrit une suite de mots inadéquate, on peut pas considérer à proprement parler que la machine fait erreur. En fait, elle suit juste un processus probabiliste qui lui donne un résultat. Le résultat, il n'est pas faux, mais comme une hallucination. Une hallucination, elle n'est pas fausse pour celui qui hallucine. Et donc, je me dis, avec des modèles comme ça, il y aura des hallucinations, mais il n'y aura plus de bugs. Et pouf, tout
toutes les vertus du bug dont Marcello a parlé, eh ben, elles disparaîtront. Alors, je soumets mon hypothèse à Marcello. Mais encore une fois, et pour la dernière fois, il me retourne comme une crêpe.
Ce que tu dis ressemble un peu à cette idée de ces algorithmes-là ne seraient pas basés sur des théories. En fait, c'est complètement faux. C'est quoi, par exemple, un agent conversationnel? Ben, un agent conversationnel, en principe, c'est un algorithme qui est capable de manipuler la langue naturelle et de la manipuler au même niveau qu'en parlant de cette langue. Ça, c'est la définition. Donc, par exemple, ça me fait beaucoup rigoler tous les articles sur le fait que ChatGPT ne donne pas des informations justes ou vraies. Bah, évidemment, il n'est pas fait pour. C'est comme si je disais, cette voiture frite très mal les courgettes. Bah, ouais, en effet. Donc, GPT, il est fait pour quoi ? Pour manipuler. Donc là, déjà, pour évaluer s'il y a un bug ou pas, il faut savoir quel était l'objectif de l'algorithme. Donc, qu'est-ce qu'on a modélisé ? On a modélisé l'usage de la langue naturelle. Et là, une autre question se pose, c'est quoi la langue naturelle? Ces algorithmes-là, je ne vais pas faire l'histoire, mais après des gros échecs, disons, des systèmes experts qui étaient basés sur des théories linguistiques particulières dans les années 80, on a commencé à se dire, peut-être on peut penser la langue comme un système clos, fermé, un peu comme les structuralistes, c'est-à-dire le fait de dire, l'essence d'un mot ne dépend pas de sa relation avec le monde, l'essence de soleil ne dépend pas de la relation entre le mot soleil puis l'étoile véritable qui est le soleil, mais ça dépend juste de la relation de ce mot-là, de cette chaîne de caractères, avec l'ensemble de la langue, l'ensemble des autres mots. Ça, c'est une idée théorique. Et cette idée-là est implémentée dans un algorithme et on peut évaluer si l'algorithme fait ou pas son travail en regardant s'il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Sans doute, il y aura des bugs, mais quand même, il reste que c'est quelque chose qui modélise quelque chose et qui donne des résultats par rapport à ce quelque chose qui a modélisé. Mieux, si ça ne marche pas, ça nous permet peut-être de nous poser la question « Ok, mais ça, c'est une définition possible des langues. Peut-être converser peut vouloir dire d'autres choses. Du coup, je peux le modéliser autrement et du coup, je peux avoir d'autres... » Donc, je pense que c'est la manière de les vendre et de les mettre dans un discours qui, en effet, rend de plus en plus difficile, typiquement pour ChatGPT, parce que personne ne sait à quoi ça sert. Et donc, en effet, je ne peux pas évaluer s'il fait bien ou mal, parce que je ne sais même pas pourquoi il a été pensé.
Décidément, il a réponse à tout, Marcello. Et cette réponse-là, je la trouve lumineuse. Pour savoir si une machine dysfonctionne, il faut savoir pour quel usage elle a été pensée. Et c'est vrai qu'on ne sait pas très bien pourquoi des IA comme ChatGPT ont été pensées. Donc, on ne sait pas très bien si elles marchent ou pas. Est-ce que leurs hallucinations peuvent être considérées comme des bugs ? Oui, si on considère qu'elles doivent dire des choses vraies, solides, par exemple. Et non, si on considère qu'elles doivent juste simuler le langage humain et la conversation. J'avoue que j'avais jamais vu les choses comme ça. Et d'instinct, ça m'amène à deux conclusions. La première, c'est assez flippant. Et ce serait bien qu'on soit plus au clair sur les intentions qui prévalent à la création de ces machines. Bon, peut-être que ça se fera quand on aura des usages plus précis des IA génératives. Et ça commence d'ailleurs. Mais en attendant, on est face à des machines assez singulières. On ne sait pas vraiment si elles marchent bien ou pas. D'où la seconde conclusion. Est-ce que c'est si étrange de se trouver face à des machines dont on ne sait pas si elles marchent bien ou pas ? Pourquoi ça devrait nous gêner ? Alors qu'en fait, on passe notre temps à vivre avec des humains dont on ne sait pas très bien non plus s'ils marchent bien ou pas. Et ça se passe pas si mal. Donc finalement, c'est peut-être ça qui rend si singulier notre rapport à ces nouvelles machines que sont les IA. C'est qu'elles nous rappellent les humains, y compris dans leur manière incertaine de déconner. Merci à Marcello Vitali Rosati. Je recommande évidemment le plus chaleureusement possible la lecture de son livre « Éloge du bug » qui est sorti dans la collection « Zone de la découverte ». À la prise de son, c'était Alexandre Chénet, au mixage Basile Bocquer et Cédric Diallo. Réalisation, Séverine Cassard. Après les infos, on retrouve la série « De long par de long » de Laurent Delmas. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, Laurent ?
Aujourd'hui, sixième épisode de notre série « Alain, Remy, Delon, Jean-Paul et les autres ».
Besoin de faire le plein d'énergie ? EDF vous a concocté le jus de l'été. Alors, je prends un service client haut de gamme, j'ajoute des kilowattheures pour la puissance, j'enlève quelques euros pour la légèreté, je mélange, et voilà, c'est plein d'énergie.
En ce moment, profitez de jusqu'à moins 6% sur le kilowattheure hors taxe par rapport au tarif réglementé avec une qualité de service numéro 1 du secteur. Étude Bearing Point et Kantar, catégorie entreprise de service. Infos et conditions sur edf.fr/nos offres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter présente Moisturizer, le dernier album de Wet Leg.
Should be careful. Do you catch my drift? 'Cause what I really want to know is, can you catch these bits? Man down. Level up. I know all too well just what you're
C'était un extrait de Moisturizer, le dernier album de Wet Leg.
Très belle matinée sur France Inter, il est 10h.